On va commencer les sorties de la semaine, Laurent, avec Maternal, un premier long métrage de l'italienne Maura Del Pero. Paola quitte l'Italie pour Buenos Aires, où elle doit terminer sa formation de sœur au sein d'un foyer pour mères adolescentes. Elle y rencontre Luciana et Fatima, deux jeunes mères de 17 ans, à une période de leur vie où chacune se trouve confrontée à des choix. Donc confrontée effectivement à la maternité précoce des filles, avec la maternité absente des sœurs. Beau sujet, enquêté par sa jeune réalisatrice, on n'en doute pas, et véracité à tous les étages. Alors, question, pourquoi ce récit bien mené, bien interprété, semble si lisse, si bien réglé, même dans ces accidents, tous attendus jusqu'à cette fin inéluctable?
Mais je n'ai pas de réponse à votre question. Je n'ai pas de réponse parce que je suis dans le même état de trouble, voilà, par rapport effectivement à cette situation donnée, dont il faut quand même dire qu'elle n'est pas si exotique que ça. J'ai lu certains de mes confrères qui pensent que c'est un exotisme fou lié à l'Argentine que de faire en sorte que des mères célibataires, comme on appelle, soient en quelque sorte vivent sous le toit de religieuses. Ça existe en France aussi. Enfin, il y a pas d'exotisme formidable à cette situation. Mais effectivement, à force, on sent bien la volonté de ne pas faire dans le pathos, de ne pas faire dans le mélo, mais à force de retenue, il semble vraiment que la réalisatrice italienne en soit parvenue à un os complètement dégagé et qui ne laisse passer aucune émotion réelle.
Marco Cisal, vous êtes de cet avis-là, vous avez vu le film?
Oui, j'ai vu le film et je suis tout à fait d'accord. En plus, j'ai vu, ça va paraître un peu snob, mais j'ai vu au festival de Mar del Plata dans un programme de films argentins.
Ouais.
Il y a tellement de choses excitantes dans le cinéma argentin aujourd'hui que ce film avait paru très, effectivement, assez lisse et plat, alors qu'il y a un potentiellement, par son sujet et ses actrices, ça pourrait être un film beaucoup plus brûlant et troublant, et c'est assez sage, quoi.
Ouais. Israël, le voyage interdit, partie 1, Kippour, de Jean-Pierre Lido. Il se dit ça, une famille oubliée, les Juifs d'Algérie, eux aussi perdus de vue, n'avoir rien transmis à mes enfants, m'être compu dans l'ignorance. Arriverai-je à me débarrasser de toutes mes fautes, car d'Israël, je dus vite l'admettre, je ne savais rien, ni de son passé, ni de son présent.
Oui, alors c'est la première partie qui s'appelle Kippour, d'un documentaire en 4 parties au total, ça fait 11 heures de films qui vont sortir progressivement dans les 3 autres semaines à venir. Alors oui, c'est intéressant cette position à la fois de documentariste mais aussi simplement de citoyen, d'homme avec un père marxiste algérien et athée et une mère juive plus respectueuse de la tradition religieuse. En fait, ce film est intéressant au moins dans cette première partie sur le fait qu'il met sur la table que c'est bien la recherche d'une identité absolument une identité juive absolument étouffée, repoussée, voire dénuée, qui interroge donc l'essence même de la religion, l'essence aussi citoyenne, avec beaucoup d'interrogations sur le sionisme, lui aussi délibérément écarté et même attaqué par le cinéaste dans sa jeunesse. Donc cette démarche très très personnelle, très intime, peut paraître parfois agaçante, parce qu'elle manie un certain nombre de problèmes très 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 présents, mais je trouve qu'il y a une sorte de sincérité permanente qui affleure sans cesse, qui est tout à fait touchante.
Chien pourri, la vie à Paris, c'est un film d'animation de David Durand, Vincent Patard et Stéphane Aubier. Bien connu, 5 aventures de 12 minutes chacune.
Le chien pourri, c'est le chien qui pue et qui fait les poubelles. Donc d'accord, ça nous ravit tous, évidemment. C'est 5 histoires courtes de chien pourri. C'est un programme d'une heure avec les puces de chien pourri en Amérique, chien pourri à la mer, on dirait des bécassines. C'est drôle, c'est iconoclaste, c'est surréaliste. Il faut vraiment y aller en famille. Ce qui est intéressant dans le contexte actuel pour les films d'animation, c'est que comme on est obligé d'y aller en famille, on achète beaucoup plus de places qu'une seule place de cinéma. Voilà, donc aller en grande famille, nombreuse, voir Chien pourri, il faut, on le dit à cette occasion, aller au cinéma, s'il vous plaît, remplissez les salles, elles en ont bigrement besoin.
Mais oui, puis c'est très sécure le cinéma, en plus, beaucoup plus que les restaurants ou même la rue, tout le monde est masqué, on est tous espacés, c'est très facile de... On peut parler au micro avec un masque, donc on peut regarder un film avec un masque.
C'est ce que font tous les gens dans un train, par exemple.
Par exemple.
Regarder un film avec un masque.
Voilà. L'enfant rêvé, Raphaël Jacoulot. Depuis l'enfance, François a consacré sa vie au bois, celui des arbres, des forêts, du Jura, qu'il connaît mieux que personne. Il dirige la scierie familiale avec sa femme, tous deux rêvent d'avoir un enfant. Sans y parvenir, c'est alors qu'il rencontre Patricia. qui vient de s'installer dans la région, commence une liaison passionnelle. Très vite, elle tombe enceinte. Le désir d'enfant côté masculin, l'obsession même, sujet assez rarement traité au cinéma, donc a priori intrigant, mise en place du sujet, description du lieu, des enjeux plutôt réussis jusqu'à cette issue fatale, la maîtresse enceinte et le choix pour François. Ce personnage tourmenté mettra quand même 20 minutes de film, c'est long, à tergiverser, l'annoncer ou pas à sa femme, jusqu'à transformer cette intrigue existentielle en thriller classique. Un dernier acte tellement décevant comparé à la feuille de route, Laurent.
Oui, moi la déception, elle vient globalement par rapport à la filmographie de Raphaël Jacoulot, parce qu'il dans ses trois films précédents, notamment avec Barrage et Avant l'aube, il me semble qu'il avait montré des qualités plus assurées, et notamment en termes de narration. C'est quand même un scénario écrit par quatre auteurs, quatre personnes, et c'est au moins effectivement dans une première partie, ça multiplie les invraisemblances, c'est un scénario qui peine totalement à convaincre son spectateur, alors qu'il est en train de raconter ce qui devrait être une mécanique implacable. Oui. C'est quand même un paradoxe absolu. Dans ce contexte-là, les personnages du coup sont assez mal dessinés, il faut bien l'avouer, reste un style certain, que Raphaël Jacoulot soit un cinéaste, personne ne peut en douter, c'est malheureusement pas avec ce film-là qu'il le prouve le mieux.
C'est avec Jalil Lesper, Louise Bourgoin et Mélanie Doutet. Les guerriers de l'Himalaya, c'est un documentaire de Jerzy Porebski. Dans la Pologne communiste des années 80, un groupe d'alpinistes défie l'hiver himalayen et enchaîne les exploits en réussissant les premières ascensions de la plupart des sommets de plus de 8000 mètres dans des conditions inimaginable de météo.
Mais oui, ah bon, alors les films de montagne, on adore. Enfin, moi, j'adore les films de montagne. Je trouve ça toujours merveilleux. Ce qui est bien ici, c'est que c'est un pas de côté quand même, parce que il y a pas de tempête de neige, il y a pas de grandes montagnes visibles, il y a pas de scène d'escalade avec un suspense fou. Il y a juste des anciens alpinistes himalayens polonais sous le régime communiste, et croyez-moi, c'est manifestement pas simple de prendre piolet et de monter des sommets quand on est effectivement dépendant des régimes communistes. C'est ce que raconte le film, c'est donc à la fois très drôle, par exemple ils en sont réduits à se partager une médaille en plusieurs petits bouts parce qu'il n'y a pas assez de médailles pour chacun d'entre eux, et puis par ailleurs il y a le récit très émouvant d'un frère qui va à 8000 mètres pour parce que son frère est mort en haut, sur ce sommet. Donc il y a des scènes à la fois très émouvantes et puis très drôles, très drôlatiques sur cette improbable rencontre entre les grands sommets et l'Himalaya communiste.
Et puis encore deux docs, notamment We Are Soldiers de Svetlana Smimova. Ces trois volontaires ukrainiens blessés lors de la guerre avec les Russes et les séparatistes sont soignés à l'hôpital militaire de Kiev représentant trois générations, trois milieux sociaux, trois régions différentes. Ils se rétablissent, s'ennuient, espèrent et préparent l'avenir.
Et tout ça, Christine, en une heure. Ce qui prouve bien parfois quand même qu'on peut faire des choses tout à fait passionnantes et intéressantes en peu de temps. Tout ça tient en une heure et le pari est tenu de nous raconter ces trois vies-là, ces trois vies fracassées dans la guerre civile contre les séparatistes alliés aux Russes. C'est de ce point de vue-là vraiment tout à fait réussi par une réalisatrice qui est à la fois actrice et kiné volontaire, ce qui la rend très proche de son sujet.
Et enfin, en attendant, le Carnaval, également documentaire de Marcello Gomez, dans la région reculée du nord-est du Brésil. Le petit village de Toritama est un microcosme de capitalisme impitoyable.
Et oui, ils font les 20 millions de jeans par an, 20 millions de jeans de pantalons par an, voilà, dans ce paradis du néolibéralisme, vous le disiez. Et ils ont une sorte d'Éden, de paradis, une fois par an, le carnaval, pour lequel, là, pour le coup, ils sacrifient tout, mais auparavant, ce sont des esclaves absolument modernes.
Avant le cadeau, juste, bien sûr, signaler Yalda, la nuit du pardon, on a consacré toute l'émission la semaine dernière.
On a bien aimé.
Et que le prix Jean Vigo 2020, décerné hier soir, vous faisiez partie du jury, Marco Suzal, a été décerné à Énorme de Sophie Le Tourneur.
Et avec un prix spécial pour les frères Larieux, également. Voilà.
On passe au cadeau, Laurent.
On passe au cadeau. Pour vous, alors on essaye de trouver des choses que vous n'avez pas reçues en service de presse. Ne dites rien si c'est le cas, s'il vous plaît. Et on les recommande de toute façon à nos auditeurs très chaudement.
Ouais.
Thomas, pour Thomas Haydan, eh bien, ce seront les fleurs de Shanghai, de HHH, comme on dit, c'est-à-dire Houssia Houssienne, le réalisateur taïwanais qui fait un somptueux portrait des bordels de la fin du 19e siècle à Shanghai. Et il y a un très très beau portrait du cinéaste par Olivier Assayas, s'il vous plaît. C'est chez Carlotta, je ne sais pas si je l'ai dit.
Merci.
Pour vous, Axel Cadieu, vous êtes dans un groupe où le sport a toute sa place. Eh bien aujourd'hui, ça sera non pas sous foot, mais sous rugby pour vous. Avec le très beau documentaire de Delphine Glaise, beau joueur, je ne sais pas si vous l'avez vu. Mais c'est un formidable portrait d'une équipe qui est un tout petit peu gagnante et extrêmement perdante. Et c'est avec des personnalités, notamment l'entraîneur, qui ferait un film de fiction merveilleux. C'est chez Condor, et je le répète, c'est Beau joueur de Delphine Glaize, à recommander chaudement également.
Merci beaucoup.
Pour vous, Fausto Fazzullo est bien sûr Pasolini. Ah, Pasolini dans son versant peut-être le plus titillant, c'est-à-dire la trilogie de la vie, le Décaméron, les contes de Canterbury et les Mille et une nuits. C'est chez Carlotta, c'est un joli petit coffret de Blu-ray. C'est la première fois que ces trois films-là paraissent en Blu-ray. Ce sont trois récits évidemment éminemment fondateurs, on les connaît, et Pasolini les traite bien évidemment à sa manière. Dernier coffret pour vous, Marco Suzal, Alain Cavalier, je pense que c'est un cinéaste qui n'est pas inconnu des cahiers du cinéma, bien entendu, et c'est un merveilleux petit coffret de deux DVD chez Tamasa pour retrouver 24 portraits au féminin de l'illusionniste, de la fileuse, de la fleuriste, etc. Et ce conseil absolument merveilleux d'Alain Cavalier, à consommer avec modération, dit-il, il faut voir trois films, par trois films, mais pas plus. Donc suivez son conseil, Marco Suzal.
Merci beaucoup.